Podcast.com. Essaye ça.
Le Crachoir, épisode 130. Drainer le marais. Salut Martin.
Hey, salut Frank.
C'était une grosse semaine pour nous, mais encore plus pour Alexis Cossette-Trudel qui s'est fait un petit peu barrer de tout partout. Puis là, ça capote dans le camp des conspis, puis on crie à la censure, puis que c'est la première fois que ça arrive, puis c'est la victime, le martyr. Mais t'as fait des recherches qui démontrent autre chose, hein?
Ben oui, c'est ça, tu sais, avant de commencer de me lancer là-dedans, parce que je sais très très bien où tu m'amènes, ben tu sais, à tel point tu disais que, écoute, les suppos de Cossette Trudel étaient tellement, en totale perdition par rapport à cette nouvelle-là, que figure-toi donc, Frank, écoute, il y a eu un avis de recherche qui a été lancé, qu'un cyberconcierge ou un deep staker m'a fait parvenir à l'effet qu'il existe un groupe qui s'appelle les Amis de Radio-Québec qui serait à la recherche de moi, dont il ne se rappelle pas du nom, ils disent Martin X, j'ai oublié son nom.
Ils ne sont pas bien bons dans les recherches.
Ouais, je pense que Tommy Godette, en tout cas, ça va assurément faire l'objet d'un, si c'est pas déjà le cas, d'un post sur Ménage le dimanche. J'ai déjà tout le concept dans ma tête. On va bien rigoler avec ça, mais.
C'est quoi, ils t'ont vu dans le journal, puis ils le cherchent, là?
Je ne sais pas si c'est le journal ou si c'est à cause de la page ou tu sais, peu importe. C'est drôle, hein, parce qu'ils viennent toujours sur la page pour dire « Mon clavier, ta face, t'es qui, toi, tu te caches en arrière de ton clavier. » Mais dans le groupe privé, tu sais, ils me nomment puis ils disent « Watch it,
là. » Mais moi, ce que je trouve étrange, c'est que s'ils savent quitter, ça veut dire qu'ils t'ont vu quelque part, puis ils ont juste pas noté le nom au complet, ils ont juste « Martin ». Mais gars, faut pas essayer de comprendre comment un conspi fait ses recherches, là. C'est vous qui tombe sur quelque chose. C'est ça, faire ses recherches. Ou écouter Radio-Québec.
Ben, c'est ça. Tu sais, là, quand t'as plus de sources, ça aurait été facile de se rappeler de nous autres s'il l'avait dit dans Radio-Québec. T'sais. Ah ben là, Alexis l'a dit.
C'est la seule source.
C'est Godette. Mais là, bon, regarde. Mais revenons sur la conversation de base.
Oui.
Oui, effectivement, Frank. Il est barré tout partout. Ça a commencé par Facebook, ensuite YouTube, ensuite il s'est expatrié chez Vimeo. Ça n'a pas fait long feu non plus. On a d'ailleurs posté là-dessus hier. Il a remis un peu de monnaie de sa pièce au sujet de sa déclaration dans laquelle il a nommé Brigitte Noël, la petite Brigitte Noël. Ben, regarde, c'est ta présence sur Vimeo, finalement, qui va avoir été petite, mon cher Sornette Strudel. Mais là, j'ai pensé qu'il serait approprié pour calmer, justement, les ardeurs de nos bons amis conspirationnistes, de leur rafraîchir un peu la mémoire à l'effet que c'est pas la première fois que ça arrive. Et écoute...
Non, mais Martin, quand tu connais rien...
Il y a plus de monde que lui sur sa plateforme, là.
Non, mais quand tu fais pas tes recherches puis tu connais pas grand-chose, tout a l'air d'une première, Martin. C'est aussi simple que ça, là. Puis aussi, c'est parce que ça touche quelqu'un que eux autres aiment. Là, ça devient important, là. Mais c'est pas...
Ben absolument. Puis écoute, parlant de première, avant que je commence, on passera pas 10 minutes là-dessus, mais félicitations à toute l'équipe d'enquête pour le reportage qu'ils ont présenté cette semaine. Nous autres, on a fièrement énoncé le fait qu'on avait eu une toute petite contribution à donner un coup de main avec dans le cadre de certaines des recherches qui avaient, certaines informations, si on veut, qui découlaient des recherches non seulement de nous, mais de nos deep stakers aussi, et de nos cyberconcierges.
C'est souligné dans le générique, hein?
Absolument, c'est ça. Puis, j'ai rarement vu, puis bon, écoute, quand tu fais une entrevue comme ça avec quelqu'un, c'est clair qu'il y a tu signes un document à l'effet que tu acceptes, là, tu sais, l'utilisation qui va être faite du matériel et tout ça. Chacun aura droit à son opinion sur le traitement qui en a été fait. Moi, peu importe la façon dont ça a été traité, de un, ben s'il a signé le papier, il n'y a pas un mot à dire, puis de deux, ben je pense pas l'avoir vu plus déstabilisé que ça. Alors, bravo, Brigitte Noël. Écoute.
Ouais, peu importe, pour ceux qui pourraient plaider le montage, je veux dire, Il y a pas de construction de propos. Il y a un montage dans l'entrevue qui est simple, puis je pense qu'il est explicable par le fait que, puis je l'ai déjà expliqué, j'ai déjà même écrit là-dessus, quand on donne la tribune ou on interview un conspirationniste, sa technique, c'est de partir dans des grandes envolées lyriques, à shooter un paquet de faits, un paquet de chiffres, un paquet d'affaires invérifiables, puis c'est un flow presque ininterrompu qu'il faut interrompre, puis j'imagine que l'entrevue devait ressembler à ça, comme toujours, puis il a fallu faire du montage, évidemment, pour que ça rentre dans une émission.
Voilà.
Puis j'ai honnêtement pas trippé sur le montage, mais j'ai pas vu rien qui avait l'air d'une dénaturation de propos. Là. Ce qu'il dit dans le montage, il l'a vraiment dit. Là. Il n'y a rien qu'on peut dire contre ça. Là.
Ce que j'apprécie particulièrement, c'est que oui, il y a eu des articles de journaux. Oui, Sarnet Chaudel s'est assis avec des journalistes et tout ça. On ne reviendra pas sur la saga du devoir, de l'infiltration prétendue de son Patreon et de la patente. C'est la première fois, en fait, si on est honnête, qu'un média pédosataniste le fait s'asseoir, il met un micro d'en face puis une caméra, puis il pose des questions pas le fun.
Puis il donne la chance aussi de s'exprimer puis de répondre. Ce qu'il a fait, puis ça donne ce que ça donne.
Voilà. Fait que là, ben là-dessus, ben écoute, on va lui souhaiter bonne chance. Écoute, il reste encore quelques plateformes.
Il y a Pornhub, là, qu'il pourrait toujours aller là. Là. Mais encore là, je suis pas sûr qu'il le tolérerait longtemps, hein, parce que son show n'est pas super adapté.
Ben, on va conclure le segment que je m'apprête à faire, Frank, avec Alexis Sornet Strudel. Mais je commence, écoute, je te fais ça un peu à l'emporte-pièce, là, mais j'ai 7-8 personnalités là qui avaient des plateformes gigantesques également, qui ont été bannies des dites de plateformes. Et je vais commencer par un monsieur qui s'appelle Milo Yiannopoulos.
Ah, je le connais très bien.
Bon, ben,
c'est un militant d'extrême droite gay qui se sert de son statut plus souvent qu'autrement pour avancer les politiques et les idéologies de droite.
Bon, fait que, regarde, selon Wikipédia, c'est quelqu'un qui ridiculise l'islam, le féminisme, la justice sociale et la rectitude politique. Ouais. Savais-tu, Frank, bien que tu le connaisses très bien, qu'il avait également été à l'emploi de Breitbart de 2014 à 2017?
Oui.
C'est déjà long. En 2016, au mois de juillet, il a été banni de Twitter pour harcèlement. Il a été également banni à perpétuité de Facebook en 2019. Et à partir de 2014, il avait fait partie d'une campagne d'harcèlement dont la cible était des dames qui étaient impliquées dans l'industrie des jeux vidéo. Lui était contre ça qu'il y ait des filles qui deviennent des stars du jeu vidéo. Ça s'appelait le Gamergate ou quelque chose comme ça. Puis c'était vraiment là, un mot-clic, un hashtag, une initiative là, pour tenter là, de ridiculiser en fait la présence de femmes dans l'industrie de la. Puis quand je dis l'industrie, là, je parle pas de design de jeu. Non, je parle de joueuses.
Oui, les e-sports.
Ben, e-sports ou ceux qui streamaient ou, tu sais, là, toute femme qui gravitait dans cette industrie-là. Fait que, il s'est mérité au final. Puis là, ben, à l'heure actuelle, Milo, on le voit plus nulle part.
Puis avant, il a fait tous les talk shows. Il s'est même ramassé celui de comment elle s'appelle? Rosie O'Donnell, si je me trompe pas, c'est un pro. C'est à ma connaissance, en tout cas, c'est le seul gay que je connais qui est misogyne.
Je suis obligé d'abonder dans le même sens que
peut-être
toi.
Peut-être que ça existe, là, mais moi, j'en ai jamais vu, en tout cas, dans les médias. Puis on peut trouver facilement des... Il est encore très présent sur YouTube, Yiannopoulos, parce que il y a beaucoup de vidéos de tata de la droite qui dit « Regardez comment on casse des snowflakes! » Puis là, ben, ils mettent des codes de lui qui... Parce qu'il est très, très bon dans la joute oratoire. C'est quelqu'un qui est super vif d'esprit. Il est drôle, il est cinglant. Me fait penser à un autre, comment il s'appelle, David, quelque chose. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très fort dans le tac au tac, puis il paraît souvent très bien, en tout cas, du moins, aux yeux de la droite.
Bon, je continue. Un autre que j'ai... celui-là, je ne tombe pas tombé en bas de ma chaise, dans le sens que, bon, ça va vous dire quelque chose, probablement, mais on parle ici de Louis Farrakhan, ou également connu sous le nom de Louis X, en fait. C'est le haut dirigeant de la nation de l'islam. Donc, si je vous parle de Malcolm X, si je vous parle de Mohamed Ali, si je vous parle de toute cette filière-là, ben c'est lui qui en est le directeur depuis le début des années 80.
OK.
Il a été banni de Facebook en 2019 pendant l'espèce de drainage de marais, justement, qui s'est produit en, il me semble que c'était en mai 2019. Écoute, je te donne une couple de ces affaires qui ont des trucs qui ont fait en sorte qu'il s'est retrouvé là. Il s'est fait retirer de Twitter, en fait, en juin 2018 parce que, pour lui, l'affaire, le scandale Harvey Weinstein était à propos de la puissance juive.
Hein? OK, c'est un antisémite, lui, ce gars-là.
Ben oui, oublie ça.
Je connais pas du tout.
Une autre affaire...
Ah, ben oui, islam, oui, c'est vrai.
Une autre affaire qui va te tracer pas mal le personnage, c'est qu'en mai 2010, il a annoncé publiquement qu'il était maintenant un fervent adepte de, drumroll,
Q,
la Dianétique. Il a activement encouragé les membres de la nation de l'islam de démarrer en fait leur périple là, et de se faire ce qu'on appelle auditer, là, c'est, tu sais, exactement, ceux qui connaissent un peu la scientologie, auprès de l'église scientologique. Donc, écoute, on est à du inception de théorie des débiles. La nation d'islam, ceux qui font partie de ça, écoute, ils ont le droit le plus strict de le faire.
Mais c'est étrange qu'ils...
Mélanger les conneries de L. Ron Hubbard là-dedans, écoute, c'est du délire.
Non, mais c'est comme de mélanger une religion avec la sienne, je comprends pas. Sa démarche est vraiment étrange.
On n'est pas là pour comprendre, on est là pour exposer.
non, mais normalement, il me semble que la scientologie, c'est pas Allah, c'est Aham.
Non, c'est ça. Puis écoute, on parmi ces autres lettres de noblesse, ben, il y a, en fait, ce sont des rumeurs, mais il y en a qui prétendraient qu'il aurait été impliqué dans l'assassinat de Malcolm X. Parce que c'est pas son premier rodéo en matière de nation de l'islam, là. Okay? C'est pas une rumeur. C'est ça, exactement. Je continue. Écoute, on va s'en aller maintenant du côté des États-Unis, mais plus républicains, si on veut. Est-ce que tu connais un monsieur qui s'appelle Paul Nehlen?
Non.
Paul Nehlen, c'est un suprémaciste blanc, antisémite, qui a rendu populaire, en fait, un slogan qui s'est appelé « It's okay to be white ».
Ah ouais, j'ai vu ça passer.
Bon, parfait.
C'est pour combattre, supposément, le contre-racisme, là, le racisme anti-blanc, là, qui est un gros problème aux États-Unis.
Oui, absolument. Et écoute, ce gars-là s'est présenté à l'investiture de, je ne me souviens plus, c'était pour être gouverneur ou sénateur ou peu importe, dans l'État du, je pense, c'était le Michigan ou quelque chose comme ça. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Il a tenu beaucoup de propos antisémites et à un moment donné, ben il a envoyé un message, il a communiqué avec le Washington Post et son message, je fais la traduction sur le fly, là, comme on dit. Sur la mouche, c'est ça. Je rejette le fait d'être appelé un suprémaciste blanc parce que clairement, être pro-blanc, ce n'est pas de la suprématie blanche, à moins que les pro-juifs soit des suprémacistes juifs, eux aussi.
Non, mais tu peux pas être pro une race sans être raciste. Si t'es pro une race en particulier, ben c'est parce que t'as un préjugé favorable envers celle-ci, puis ça fait de toi quelqu'un de raciste.
Bon, écoute, je te dis le nom David Duke, est-ce que ça te dit quelque chose?
Non plus. Pour moi, ils ont disparu vite.
Non, mais on est encore dans Paul Nehlen, là. OK.
David Duke,
en fait, c'est. Il y a une radio complètement cinglée qui a déjà donné un show de radio à ce gars-là. Et il est. C'est un ancien Grand Wizard du Coca-Cola.
Oh, tabarnak. Okay, la médaille d'or de stupidité.
L'idée de génie que Paul Nehlen a eue en février 2018, c'est de se faire inviter sur le show de David Duke. Et en fait, un des propos qu'il a tenu, c'était que le fameux mur séparant les États-Unis du Mexique...
La clôture,
oui. Oui, la clôture devrait être également inclure des tourelles automatiques munies d'armes à feu.
Ben oui, comme ça, n'importe qui passe...
Je vais te le citer. Il a dit, en fait, qu'un immigrant mexicain qui s'approche de la frontière américaine devrait être traité comme un combattant ennemi, qu'il soit un homme, une femme ou un enfant.
Ah, tabarnak! Voyons donc! Il prend la peine d'aller aussi loin que ça. Mais je veux dire, c'est parce que le Mexique n'est pas en guerre avec les États-Unis, les bozos, là.
Également dans ses processus de tentative d'être candidat pour évidemment les républicains, ben devine qui c'est qui était un de ses backers financiers et idéologiques, Frank.
Je sais pas, l'actuel Grand Wizard.
Non, Steve Bannon. Quelque chose. Le gars qui vendait le gars qui récoltait des dons pour bâtir le mur puis qui s'est poussé avec le cash.
Oui. Ben, je veux dire, des tourelles, ça fait qu'il faut récolter encore plus d'argent. C'est coûte cher, des tourelles. Surtout des tourelles, là, tu sais, comme dans les films, là, qui détectent au mouvement un enfant passé pour le mitrailler parce qu'il a commis le crime de chercher une meilleure vie ou peut-être de cueillir des pissenlits un peu trop proches de la clôture ridicule à Donald.
Voilà. Et, s'en est soldé par la suite en février, toujours dans le même mois qui est passé au show de David Duke. Il a lancé une série de tweets antisémites et il a été banni à perpétuité de Twitter.
C'est de l'appel au meurtre, là.
Un peu plus tard, il est passé dans le drainage de marais de mai 2019 et il a été banni justement de Facebook à perpétuité. Et ça correspond en fait avec le bannissement de ben du monde aussi. Il y a eu Alex Jones, il y a eu Louise Farrakhan qu'on a parlé, il y a eu Milo, il y a une autre personne, on va toutes les adresser eux autres, Laura Loomer, Paul Joseph Watson, et ils ont été bannis à perpétuité de Facebook et d'Instagram. Donc, ils ont drainé la soirée. Ben, parlons-en justement de notre amie Laura Loomer. En fait, actuellement, Frank, là, cette personne-là, elle est la candidate républicaine en Floride elle se présente en fait pour représenter le 21e district congressionnel. Ben, c'est en anglais.
Congressional, regarde-moi, je t'aiderai pas, j'ai pas réponse.
non, dans la Chambre, en fait, des représentants. Oui. Donc, tu sais, bien qu'elle ait été bannie, là, justement, de différents réseaux sociaux, et elle, ben, c'est pas compliqué, elle fait partie également de ce qui s'est passé en mai 2019. Une des raisons pour lesquelles elle l'a été, ben, c'était encore une fois, des propos antisémites, des propos anti-islamiques. Écoute, là, tu sais,
de l'extrême droite, là.
C'est le fun. Ouais, ben, pourquoi je voulais parler de Laura Loomer? C'est parce qu'elle a passé dans le drainage de marais de 2019, mais c'est pour valider également qu'elle est encore une figure publique, là. Elle se présente quand même pour faire partie de la Chambre des représentants dans l'État de la Floride, là.
Ça prouve une chose, en tout cas. Ça démontre une chose, parce que j'ai remarqué dans les réactions quand Alexis Cossette-Trudel s'est fait censurer. Le monde disait « Le gouvernement nous censure, le gouvernement! » Mais ça, c'est la preuve que c'est pas le gouvernement qui censure. Ce sont des compagnies privées qui censurent les utilisateurs qui n'ont pas respecté les conditions d'utilisation. Puis le fait qu'elle puisse se présenter quand même, c'est la preuve la plus directe puis la plus claire que c'est pas le gouvernement qui censure les voix dissidentes. Ce sont juste certains médias sociaux qui disent « Bon, regarde, on offre une plateforme pour que tu puisses parler. Si tes propos sont dangereux, on décide de plus t'adonner. » C'est un privilège, tu sais, fait que c'est ceux qui disaient aussi, c'est pas de la censure parce que c'est pas le gouvernement. Oui, c'est de la censure. C'est de la censure. Mais tant qu'elle n'est pas gouvernementale, elle demeure acceptable parce qu'une compagnie privée a le droit, d'avoir des conditions d'utilisation et de bannir ceux qui ne les respectent pas. Mais toute cette espèce, je me suis rendu compte que les conspis ne comprenaient pas plus le sens du mot censure qu'ils ne comprennent le mot diffamation.
Voilà, très bien dit. Je continue ma tournée. Paul Joseph Watson, c'est un Britannique, en fait, qui lui, il a tout à son actif, là. C'est un YouTuber, ça a été un...
Peux-tu me le renommer?
Paul Joseph Watson.
Est-ce que c'est le gars de l'environnementaliste, là?
C'est un YouTuber, ça a été un animateur de radio, c'est un écrivain, c'est un anti-féministe, c'est un adepte des théories de la conspiration, puis c'est un extrémiste politique. Jusqu'à 2016. Parce qu'à 2016, lui, il a dit « Non, 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 là, moi, je fais partie de la nouvelle droite. » Okay. L'importance des mots ici, hein. C'est la même affaire, c'est juste, mettons, je suis un extrémiste light. C'est la même, c'est un peu comme la campagne anti-tabac, tu sais, arsenic léger, là. C'est un peu la même. Donc, il est passé lui aussi dans le drainage de marais de 2019, Facebook, Instagram. Et la raison qui avait été énoncée à l'époque, c'était pour une violation, par contre, spécifique des propos haineux. Donc, lui, là, tout ce qui était islamiste, tout ce qui était féministe, c'est pas compliqué, là, c'était bon rien. Mais tout ça s'est produit après son espèce de changement à l'effet qu'il faisait maintenant plutôt partie de la nouvelle droite, tu sais, de l'extrémisme light. Alors, ça n'a pas marché.
Mais la nouvelle droite, ça va être à eux autres, ils font pas la promotion de la création, mais du design intelligent. Dans le fond, c'est les mêmes valeurs, mais un peu mieux formulées avec des meilleures communications.
C'est ça. Il n'est pas passé dans le crusher, par exemple, de YouTube. Il y a eu une ou deux strikes, je ne me souviens pas, mais il a décidé un peu plus de revoir ses positions puis de se réajuster. Fait qu'il l'est encore sur YouTube. Écoute, on parle de quelqu'un qui, si je ne me trompe pas, il y a 1,4 million d'abonnés. Là, on est ailleurs que Sornette, là. Mm-hmm. Et la dernière vidéo qu'il a faite, je suis allé la voir, ça s'intitule, c'est traduit, là, La vérité à propos de Trump par rapport à la COVID-19. Son discours, je l'ai écouté un petit peu, son discours, c'est pas compliqué, c'est que tous ceux qui sont pro-masque, pro-distanciation, sociale, pro-mesure. Il n'arrête pas de dire à tout le monde, ben, tu sais, justement, vous n'êtes pas prêts à porter. Si on peut sauver une vie, ça vaut la peine qu'on porte le masque et tout ça. Mais là, il lui remet d'en face que. Puis il met des captures d'écran, là, c'est très Sornette, je trouve, des liens, son affaire. Il met des captures d'écran, des coupures de journaux dont on ne voit pas la provenance, dans lesquelles, ben là, il met des propos pas très gentils de gens qui disent, ah, ben, j'espère que Trump va en crever, tout ça. Fait que, tu sais, l'espèce d'effet miroir très, très G9, puis c'est lui qui le dit, c'est lui qui l'est, là. Mm-hmm. C'est exactement ça. Puis écoute, il y avait des centaines de milliers de views de son truc. Fait que lui, il s'est sauvé du bannissement de YouTube, mais bon. Je continue, Frank, avec un nom qu'on passera pas tellement de temps dessus parce qu'écoute, tant en a parlé, j'en ai parlé, on en a parlé, mais évidemment, c'est Alex Jones. Est-ce qu'on doit parler de Sandy Hook? Est-ce qu'on doit parler des propos antisémites?
Les grenouilles gays, puis des là, c'est ça. On n'a pas besoin. Je pense que tout le monde connaît Alex Jones.
Par contre, je tiens à remettre les pendules à l'heure parce que j'aimerais ça vous lire, je vais vous traduire sur la mouche, les raisons énoncées par Facebook pour avoir procédé à son bannissement. Là, je ne parle que de Facebook. Mais après ça, là, tu sais, Alex Jones, pour mettre les choses en perspective, il est même barré sur LinkedIn. Là, okay? Il est barré partout. Là, OK?
Il y a juste Facebook, Rogan qui donne encore un peu de tribune une fois de temps en temps.
Ben ouais. Facebook ont fermé la page plusieurs de ces pages et les raisons qu'ils ont données sont les suivantes. La glorification de la violence qui viole en fait la politique de les règles de la communauté. L'utilisation d'un langage déshumanisant lorsqu'il décrit les transgenres, les gens qui pratiquent l'islamisme plutôt, les immigrants, ce qui fait en sorte que cela contrevient à la politique de propos haineux de Facebook. C'est ça la raison qui a été donnée par Facebook. C'est pas, il a dit qu'il y a des affaires fausses, c'est pas les fake news, non, c'était des propos haineux.
C'est de la discrimination.
Et rappelons également que dans toutes ces déclarations de cave au sujet de Sandy Hook, pour lesquelles il s'est excusé d'ailleurs sur le show de Joe Rogan, moi je l'ai regardé deux fois dans ma vie, c'est 4h40, dû passer 300 000 $ en dommages.
Ouais, c'est ça. Puis il dit là, tu sais, que c'est pas vrai, mais ce qui est drôle, c'est quand j'annonce ça à des conspis qui trippent dessus, puis il dit « Oh, ben là, Jones, il a tout montré que c'était pas vrai, Sandy Hook, c'est des acteurs, tout ça. » Je dis « Non, mais même Jones, il dit maintenant que c'était fake, son affaire, là, puis qu'il y avait, c'était pas fondé. » Puis le monde, il en revient pas. « Bah, ouais, ouais, mais ça. » Puis là, t'as beau mettre le lien, ils n'iront pas l'écouter parce que ça vient contredire leur narratif.
Je continue, Frank, avant de revenir, d'avoir nos deux derniers, parce que c'est un peu d'actualité pour nous autres, parce que si vous suivez la page Ménage du dimanche, vous vous souvenez d'un debunk, en fait, qu'on a fait d'une publication que Stéphane Blais, Cheveux de Prince, avait partagée, et dont la source était Natural News, que je vous avais d'ailleurs exposé, et pour laquelle je vous ai expliqué qu'il ne m'était même pas possible de vous référer au site web de Natural News. Ben là, je vais vous expliquer techniquement pourquoi. Mm-hmm. En fait, Natural News a été carrément fermé sur Facebook, tout ce qui avait attrait à Natural News, et ça avait, on remet encore une fois les choses en perspective, Frank, 3 millions d'abonnés sur Facebook. Vous imaginez le raz-de-marée que ça a fait, là. 3 millions de personnes qui se font dire par Facebook, t'es plus sur cette page-là, la page n'existe plus parce que ce qu'ils disent, c'est de la marde. Facebook, c'est très rare qu'ils font ça, sont même allés plus loin. Ils ont banni le nom de domaine naturalnews.com de paraître sur Facebook.
Personne ne peut reprendre ça. Fait que si, fait que personne ne peut partager un lien de leur site de merde. Ils devraient faire la même chose avec santé-nutrition.org, si je suis plus capable.
Ben, écoute, j'en ai parlé dans le débunk qu'on avait fait. Mike Adams, qui est à la tête de ça, de ce média alternatif-là et journalisme médical citoyen-là.
C'est un faux média.
Son surnom,
hein?
Son surnom à Mike Adams, c'est The Health Ranger. Alors, ça vous donne une idée. Et parmi les raisons qui ont été énoncées, ben la première, c'était qu'il contrevenait aux politiques de spamming de Facebook. Donc, ça roulait tellement leurs affaires qu'ils achetaient trop, tu sais, qu'ils plaçaient trop de pubs, qu'ils gossaient trop de monde, qu'ils invitaient trop de monde à liker leur page et tout ça.
C'était considéré comme du spam.
Ouais, mais essentiellement, et je vais, je sais pas, dans la description, si on veut, si ça vous intéresse de l'épisode, je vous enverrai vers le post qu'on avait fait parce que c'est un long post dans lequel on explique que même l'Université McGill ici a fait, la faculté de sciences de l'Université McGill a fait un article très, très intéressant sur Mike Adams à l'effet que ce gars-là est un freak, là. C'est un anti-sida, c'est un anti-vaccin. Et en gros, ce qui s'est construit, ce gars-là, c'est un univers parallèle que vous retrouvez sur naturalnews.com.
Quand tu dis un anti-sida, c'est que lui, comme notre chanteur...
Bernard Lachance.
C'est Bernard ça. Lachance, ouais, il pense que le sida n'existe pas, il n'est pas malade, les médicaments, c'est une conspiration.
Oh, et prenez plus vos médicaments, tu sais, tout ça, là.
Dangereux.
Ça, c'est l'affaire la plus... Je ne sais pas quel terme, quel qualificatif utiliser. La plus intense que j'ai vu Facebook dans toutes mes recherches faire à une plateforme, c'est même ton nom de domaine, on ne veut plus l'avoir ici. Là. Fait que ça, là, écoute, c'est every. Je continue, Frank, parce que je me suis gardé le dessert pour la fin, parce que là, on va parler d'une personnalité canadienne. Oh. Une dame que tu connais peut-être qui est du nom de Faith Goldie.
Ah, ça me dit quelque chose.
Oui. Écoute, tu vas adorer ça. En fait, écoute ça, je te fais une
j'aime son nom.
Effet d'âme. Très jolie dame. Écoute, tu sais, c'est probablement... écoute, ça donne l'impression, tu sais, d'une influenceuse, jolie dame, tu sais, tout ça, qu'on dirait qu'elle m'en a pris le champ droit et non le champ gauche dans ce cas-ci, carrément, parce qu'écoute bien ça. En mars 2017, alors qu'elle est à Bethléem, OK, elle fait une vidéo, un vidéo qu'elle pose sur Twitter.
T'as peu, Bethléem, Texas?
Non, Bethléem en Palestine.
Ah, OK.
Dans lequel elle exprime le fait qu'elle est surprise d'entendre le call to prayer islamique, là, tu sais, qu'on entend.
L'appel à la prière à 5 heures du matin.
C'est ça. Et elle dit, et je la cite, La population chrétienne de Bethléem a été victime d'un nettoyage ethnique. OK? Ça, c'est sur Twitter. Après ça, je continue. Dans un live stream en 2017, encore une fois, au cours d'une manif, mais d'un rallye qui s'appelait Unite the Right à Charlottesville. Donc ça, je vous en ai parlé. Elle avait protesté, évidemment, contre ce qui était la destruction des monuments des confédérés.
Ouais.
Elle avait été très vocale à propos de ça. Ensuite de ça, écoute bien ça, c'est de toute beauté. Vous avez sûrement déjà entendu parler d'un média qui s'appelle Rebel Media.
Ben
moi,
oui.
J'ai déjà vu ça.
C'est oui, une souvent, plateforme.
Oh, ouais, c'est ça. C'est une plateforme où on retrouve un paquet de gens qui ont des allégeances de droite et tout ça. Mais c'est pas hardcore comme qu'est-ce qu'on s'apprête à parler là. Mais elle travaillait pour Rebel Media. OK.
Ouais, ils ont quand même un minimum de crédibilité là.
Sur un show. Oui, non, ben c'est ça, mais tu sais, écoute, les allégeances sont très claires là, par rapport à Rebel Media.
C'est orienté.
On veut toujours être à contre-courant, puis tout ça. Elle se fait inviter dans un podcast qui s'appelle The Crypto Report, qui est sur un site web reconnu pour être néo-nazi qui s'appelle The Daily Stormer.
Oh,
ça a tellement eu un... Ça a tellement créé une onde de choc, Frank, que le gars qui l'a engagé, puis c'est un des cofondateurs de Rebel Media, qui s'appelle Brian Lilly, a démissionné, man.
Parce un fondateur qui
regrettait d'avoir...
À ce point-là?
Ouais, ouais. Absolument, absolument. C'est comme si moi, là, avec podcast.com ou H2O Web Media, là, je collaborerais avec quelqu'un sur un podcast, là, puis que la journée qu'il ferait une connerie de même, je ferme tout. Mais je ne veux pas être associé à ce gars-là.
Ça me fait penser à Greenpeace. Il y a des membres fondateurs qui sont partis de Greenpeace parce que eux autres, ce qu'ils avaient créé, c'était un groupe pour l'écologie, pour l'environnement, puis quand ils ont vu que ça prenait trop des que ça avait trop des visées politiques, puis c'était rendu trop militant, puis que c'était rendu extrémiste avec des Paul Watson de Farley Moat, ces choses-là, ben il y a un fondateur de Greenpeace qui lui-même a sacré son camp, parce que moi j'ai créé ça pour défendre l'environnement, pas pour faire de la politique.
Je continue rapidement. Elle a été invitée également sur un autre podcast qui s'appelle The Millennial Woes, qui est en fait encore une fois, c'est d'allégeance très à droite. Et elle a récité le slogan de David Lane, qui est un suprémaciste blanc bien connu, et je vous en fais la traduction sur la mouche. Nous devons sécuriser l'existence de notre peuple et créer un futur pour nos enfants blancs.
Voyons
donc, après ça, elle s'est faite confronter dans divers médias, puis elle a dit, je vois pas ça comme une controverse, on veut juste survivre.
Ben oui, parce que vous êtes vraiment en danger. Moi, c'est quand je vois ceux qui disent « All lives matters », ceux qui disent « Black lives matters », c'est raciste, parce que « All lives matters », t'es pas d'accord avec « All lives matters », t'es raciste. Non, 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 on est tous d'accord avec « All lives matters », sauf que... L'affaire, c'est que les Blancs ont pas besoin d'un mouvement pour les défendre. T'sais, c'est pour ça que Black Lives Matter est important, puis que All Lives Matter, ça veut rien dire, ou White Lives Matter too, ça veut rien dire non plus. C'est ça qui est drôle, c'est que les suprémacistes blancs ont l'impression que c'est leur culture, pis c'est leur groupe à eux autres qui est ciblé, puis alors que les ceux qui les combattent recherchent juste l'égalité.
Bon, ben regarde bien les répercussions que ça a eu. Ce que je viens de te raconter là, le fait qu'elle ait récité ce slogan-là, c'est en décembre 2017. OK? On avance en mai 2018. Elle a été bannie de PayPal. Elle a été bannie de Patreon.
OK.
Ensuite, après ça, il y avait une autre plateforme qui a été démarrée dans toute la foulée des polémiques relatives au bannissement de gens sur Patreon. Il y avait une autre plateforme qui avait été démarrée, je me rappelle de ça, ça s'appelait Freestarter. Elle s'est en allée là-dessus. Mais la plateforme elle-même a été fermée par PayPal le même mois, ce qui faisait qu'elle ne pouvait plus recevoir de paiement de qui que ce soit.
Je savais même pas que ça se faisait, parce que tu sais, on va censurer des gens qui ont une tribune, mais là, c'est tu feras plus d'argent grâce à notre plateforme. Oh, je trouve ça très bon.
C'est un autre sujet de polémique, en fait, puis c'est un sujet qu'on pourra peut-être aborder éventuellement, parce que là, on tombe dans une toute autre... calice, man, j'allais dire narratif. Hey, fuck you.
Non, mais tu peux le dire, mais faut que tu mettes des guillemets dans ta voix.
Ça, me voit. OK, guillemets, narratif. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on tombe dans une autre caste de gens qui s'y opposent. Parce que comment peux-tu empêcher des gens qui sont prêts à payer à entendre certains propos? C'est un tout autre débat. Je dirais pas si je suis d'accord ou pas avec ça aujourd'hui, mais il reste que ça a créé vraiment une onde de choc. Dans le cas de YouTube également, j'ai fait des recherches, je l'ai pas trouvé sur YouTube, elle y est peut-être encore, mais au moment de tout ça, elle avait 60 000 abonnés à sa chaîne. Je continue. Dans la foulée de ça, elle, en même temps qu'elle s'est fait bannir de la majorité des plateformes, dont Facebook à l'époque, Facebook a également banni des groupes dont elle faisait la promotion. Écoute bien les titres, les noms des groupes. Le Canadian Nationalist Front, le Aryan Strike Force, The Wolves of Odin, and Soldiers of Odin, also known as Canadian Infidels, ont été bannis, en fait, de Facebook et, écoute, à perpétuité.
Mais Aryan Strike Force, je comprends pas pourquoi.
on parle pas de aérien, là. On parle de Aryan, OK? Et Facebook a également mentionné par la suite que tout groupe, page, lien affilié à ces groupes-là serait retiré. Fait que c'est notre petite vedette canadienne, si on veut, qui a fait beaucoup de vagues entre 2017 pardon, et le mois d'août 2018.
Ça me remplit de fierté.
Ben oui, absolument. Puis là, ben, si on en. J'aimerais ça qu'on revienne pour conclure ce segment-là, Frank, à Alexis Sornet-Strudel, parce que dans les articles qu'on a lus et que j'ai bon espoir qu'ils ont été écrits par des gens. En fait, je sais que ça a été écrit par des gens qui étaient très bien informés. La raison qui a été donnée n'était pas parce que, tu sais, là, nous autres, on avait fait des initiatives dans le sens qu'on avait fait des recherches avec les Deep Stakers et tout ça, quels étaient justement précisément les termes et conditions d'utilisation dans le cas de YouTube après Facebook. Facebook, là, on dit c'est clair, c'est QAnon. Eux autres, ils ont dit, regarde, on veut plus qu'il y ait rien de QAnon qui circule sur notre site. Ça, c'était réglé, c'était clair. Après ça, YouTube. Ben, dans le cas de YouTube, ce qui a été mentionné, c'était que ça contrevenait à la règle des trois strikes. Et non pas de santé, de messages haineux, peu importe. C'est que c'était la troisième strike qu'ils recevaient pour une des raisons des conditions d'utilisation de YouTube. Et il n'y a pas si longtemps que ça, YouTube a changé les termes et les standards de sa communauté à l'effet que les propos qui seraient... S'ils se tenaient des propos sur une chaîne à l'effet que la pandémie, c'est fake, que la COVID-19 n'existe pas et... Le représentant de Google a jugé pertinent de spécifier que cela n'avait pas à voir avec ça.
C'est une autre chose à part. Hein.
C'est d'autres choses. C'est la règle des trois strikes. Donc, on serait en droit de penser, sans s'octroyer quelques crédits que ce soit, mais on serait en droit de penser qu'il y a possibilité que la troisième strike ait été causée par des gens qui étaient tannés puis qui ont porté des plaintes auprès de YouTube. Mm-hmm. Puis que là, à un moment donné, il a sûrement dû y avoir quelqu'un chez YouTube qui a été investi d'auditer ça puis de voir si effectivement ça contrevenait. S'il en a trouvé une, ben c'est la troisième strike.
C'est la troisième prise. Fait que bye-bye, oui, oui.
Voilà. Fait que là, moi, là, les David Keller, la haie, puis tout ce monde-là, là, deux affaires à vous dire en conclusion de cette chronique-là. OK, avant qu'on aille à la phrase de la semaine. Un, allez lire les sacrements de termes et conditions avant de dire que c'est de la censure, que ça contrevient à la liberté d'expression. Lâchez-moi le pipi avec ça. Prenez 2 minutes. Vous avez l'air d'avoir du temps pour la quantité de pauses que vous faites. Sautez un post, là, sautez votre tour, puis allez voir les standards de communauté de chacune de ces plateformes-là. Puis après ça, ben vous irez broyer ces médias sociaux, puis on va voir si vous allez être encore avec la même ligne de pensée.
Tu leur demandes trop. Tu leur demandes trop. Il faudrait qu'ils commencent par aussi aller chercher les définitions des mots génocide, diffamation, c'est trop pour eux autres. Là.
Oh. Bon, ça, c'est la première affaire. Puis la deuxième affaire, je l'ai perdue. Fait que on va aller à... non, mais ça devait tourner autour de la même thématique, mais je t'ai écœuré. Ah, c'est ça. Ben, tu l'as dit, en fait, je veux juste rapper ça up, dans le fond, c'est que arrêtez de penser, la preuve la plus irréfutable que vous pouvez avoir du fait que ce ne sont pas les gouvernements qui placent des commandes à Facebook, il y en a deux preuves. La première, Laura Loomer, elle se présente encore pour être à la Chambre des représentants d'un État américain. Ça, c'est numéro un.
Donc, de participer au gouvernement, là.
Ouais, ouais. Puis numéro deux, bien, si c'était vrai qu'ils acceptent des commandes gouvernementales, pensez-vous qu'ils tagueraient des publications de Donald Trump comme des fake news, hostie? Allô? Là, mon Dave Keller, la haie, là, je ne sais pas si c'est parce que t'es trop dans ton personnage du curé d'un pays d'en haut, mais wake the fuck up, là.
Oui, c'est lui qui fait ça.
Ben oui, c'est lui, ben dans la version moderne. Là.
Oh, oui, là, oui. Frank, je connais juste l'ancienne.
Ouais. Là, Frank, il faut que j'aille. En fait, écoute bien ça. On a fait une publication très, très récemment, en fait, sur Ménage du dimanche. Et le call de la semaine, ben je l'ai vu passer, Frank, ce matin. Et c'est en réponse, en fait, à la dite publication. Ça a été publié sur Ménage du dimanche à 14h16, donc le 18 octobre, dépendamment du moment où vous écoutez ça. Et la publication, en fait, se lit comme suit. C'est une coupure de journal qui parle de la grippe espagnole dans le contexte de Montréal en 1918. Je vous la lirai pas toute, mais en gros, tous les magasins, buvettes de toutes sortes, en détail et en gros, excepté les pharmacies pour la vente de drogue seulement. Capotez pas, là, drogue, on parle de médicaments. Là.
On disait le droguiste, les drugstores.
Voilà, et voilà. Les salles à manger, les étaux de boucher, les épiceries, les magasins pour la vente de pain et de gâteaux seulement devront fermer à 4 heures. Bon, il s'ensuit une série de mesures qui avaient été mises en place pour contrevenir à la propagation de la grippe espagnole. Écoute, là, je m'excuse parce que ça roule au bout, là, cette publication-là, mais j'ai entendu le meilleur gag par rapport à ça, et c'est En gros, c'est on annonce que la poursuite de la Fondation pour la défense des droits et libertés devrait se tenir dans les prochaines semaines.
Chez l'apothicaire du coin.
Ça date de 1918. Écoute, pour moi, c'est le call de la semaine parce que, écoute, on en a que trop eu pour Alexis Sornet-Strudel qui s'organise. Moi, je suis désolé, mais à un moment donné, tu peux tenir des propos polémisés. Dieu sait qu'on l'a déjà fait, Frank, dans des vieux.
Ben, je pense que oui.
On s'est jamais caché pour aller au bat.
On a toujours critiqué le gouvernement ouvertement, puis on a été assez cinglant. En tout cas, moi, j'ai été assez cinglant à plusieurs reprises envers le gouvernement. Moi, ça me ferait quand les conspires disent, ouais, c'est ça, vous êtes à genoux devant le gouvernement, vous critiquez jamais rien. Non seulement on critique le gouvernement, mais on critique aussi ses opposants quand ils sont caves comme vous autres. C'est ça le vrai sens critique. Et une personne qui a utilisé son sens critique, c'est Sophie Robichaud qui a quitté l'entourage de Stéphane Blais. On va entendre une entrevue qu'on a réalisée un peu plus tôt cette semaine avec elle, immédiatement après la toune que Martin a choisie en lien avec la chronique et le titre.
Quoi d'autre que Swamp Song de Lynyrd Skynyrd?
Le
Le Crachoir, épisode 130. Aujourd'hui, on reçoit Sophie Robichaud, qui est ancienne présidente du mouvement Intégrité Québec et du comité constitutionnel de Citoyens au pouvoir, le parti de Stéphane Blais. Bonjour, Sophie.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, merci. Et vous?
Ça va très bien. Vous avez collaboré d'assez près avec Stéphane Blais. Qu'est-ce qui vous a amené au départ à joindre sa formation politique? Qu'est-ce qui vous a attiré chez Citoyens au pouvoir?
En fait, ça n'a même pas commencé avec le parti Citoyens au pouvoir. Ça a commencé avec des amis Facebook qui m'ont référé à Stéphane Blais parce qu'il y avait beaucoup de connaissances. C'est un CPA. Donc, il y avait beaucoup de connaissances sur la création monétaire, etc. Donc, c'est un sujet qui m'intéressait vraiment beaucoup. J'ai appris qu'il y avait une conférence qui devait avoir lieu au Collège de Maisonneuve. Et moi, j'avais acheté des billets pour pouvoir y assister parce que non seulement Stéphane Blais faisait partie des 10 conférenciers, mais il y avait aussi deux avocats et un ancien ministre. Donc, je m'étais inscrite. Et par la suite, j'ai découvert sur la page de Stéphane Blais que des Antifa avaient fait du trouble ou peu importe. En tout cas, ça avait été cancellé. Le Collège de Maisonneuve avait annulé l'allocation de la salle dans laquelle la conférence devait avoir lieu. Donc, j'étais un peu frustrée de ça parce que je me disais, écoute, c'est sur 10 conférenciers, il y en avait au moins 6 qui m'intéressaient. Donc, je me fiais mal le fait qu'on empêche des gens de s'exprimer puis d'exposer leurs conférences, tout ça. Donc, il y en a 3 là-dedans, donc stupides que je déteste, là, pour une autre fois que éventuellement je vous expliquerai peut-être, là, mais avec Gabrois, tout ça, là, c'est un être complètement narcissique. Hypocrite, je le déteste au plus haut point. Lui, il ne m'intéressait pas, mais faisait partie quand même du panel. Bref, en tout cas. Donc, voyant cela, j'étais comme un petit peu peinée, puis j'ai fait comme, mais on ne peut pas laisser des jeunes fascistes empêcher les gens de louer un local, puis de s'exprimer. Puis, fait que là, j'ai communiqué avec Stéphane Blais que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Et en privé, je lui disais, écoute, moi, je suis comme offusquée de tout ça. Donc, si vous voulez que la conférence ait lieu, je vous offre mes lieux. Et finalement, il a communiqué avec moi, puis il a dit, écoute, c'est pas moi qui organise cette conférence-là, c'est un certain Guy Bouillon. Donc, il va communiquer avec toi. Il a communiqué avec moi, effectivement. Il s'est occupé de l'allocation de plein d'affaires, de ci, de ça. Mais au fur et à mesure que je discutais avec lui, puis là, j'étais voir sa page, là, je commençais à avoir des doutes. Là, je voyais que c'était un individu qui était vraiment dans les théories bizarres. Mais bon, je m'étais engagée, fait que, bref, on continue. Et M. Bouillon m'indique que je dois avoir absolument besoin de sécurité à cause des antipodes. Pas de problème, je le laisse s'organiser avec ça. Puis moi, à l'époque, la meute, ça, je connaissais pas cela. Et j'ai appris que la sécurité, ben c'est la meute. Je dois admettre que parmi les gens de la meute, alors que je savais même pas c'était quoi la meute, il y a des gens très sympathiques qui était pas, comment je pourrais dire? Je pense que faisait partie d'un regroupement juste pour le plaisir de faire partie d'un regroupement, mais qui était pas de l'extrême droite. Par contre, quand je suis arrivée dans le clubhouse sur l'ordinaire, alors que j'ai offert le lunch à tout le monde, tout ça, j'ai entendu des discours très, très inquiétants. Puis il y en a un qui faisait partie de la haute garde de la meute que j'ai remis à l'ordre. Il y avait des discours très racistes, ça, puis je l'ai remis à l'ordre. On a eu un échange très très fort, disons. Mais je peux pas dire que tous les gens de la meute étaient aussi extrémistes que cette personne-là. Bref. Mais à partir de là, il y a un certain Xavier Camus qui a eu un malin plaisir à tout diffamer, à diffamer à mon sujet parce que j'ai accueilli cette conférence-là chez nous. C'est qui accueillait quand même, tu sais, il y a des conférenciers qui faisaient partie de ça qui étaient pas rien, là. On parle de deux avocats, dont un qui a reçu une médaille de l'ordre du gouverneur, etc., qui est professeur en droit à l'Université de Montréal, un autre ancien ministre. Écoute, je veux dire, c'est une attaque gratuite. Monsieur Camus, il est très intelligent, il est très fort dans ses recherches. Il y a une équipe extraordinaire qui est derrière lui pour faire des recherches pour ça, mais malheureusement il s'est attaqué à ma crédibilité en plus de nommer mon entreprise. J'ai eu tellement d'attaques de la part de ces femmes, de ces travailleurs, de ces chercheurs, peu importe, ça avait juste pas de sens. Ouais. Ensuite. Stéphane Blais, ben qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai adoré son discours, son champ de compétences. Je pense qu'il est correct, il est même exceptionnel. Malheureusement, à partir du moment où ce que j'ai découvert que il était une poule pas de tête là. Au lieu de focusser sur son champ d'expertise. Il s'est mis à croire en toutes sortes de théories loufoques et de m'en faire part. Exemple, à un moment donné, il voulait introduire Roch La Rochelle, un ancien policier de la SQ. Puis quand il m'envoyait les liens de ses vidéos, moi j'écoutais ça. Puis pour moi, clairement que ce mec-là était complètement à côté de la traque. C'était un cas de maladie mentale. Et j'ai même téléphoné à la SQ. Puis oui, effectivement, c'est un ancien policier de la SQ, mais il y a des troubles de maladie mentaux. Donc, j'ai envoyé ça à Stéphane. J'ai fait comme Stéphane, tu sais, avant de commencer à croire en des gens trop rapidement, je pense que on doit faire une recherche sérieuse. Mais Stéphane, c'est ça. Stéphane, c'est qu'il fait confiance à tout le monde. Il ne poule pas de tête, puis il ne fait pas des recherches sérieuses. Il m'a même déjà envoyé une vidéo là sur une théorie de terre plate. J'étais comme Stéphane, non, ça marche pas là. Tu peux pas. Regarde.
Une théorie de terre plate?
Ouais.
Est-ce que ce que vous racontez là, ça se passe avant la pandémie, c'est tout ce que vous nous racontez là?
Oui, absolument.
Puis déjà là, ouais, vas-y, Martin.
Madame Robichaud, j'ai une question très simple. Est-ce que vous vous souvenez la conférence en question là, qui finalement ne s'est pas tenue au Collège Maisonneuve? Est-ce que vous vous souvenez du titre ou de la thématique ou comment ça s'appelait? Tu sais, ça devait avoir un nom. Là. Est-ce que vous vous souvenez de ça?
Non, je me souviens pas du nom, pas du tout. Moi, la seule chose que j'avais vue, parce que j'avais des amis qui étaient amis avec Stéphane Blais puis tout ça, puis... Tu sais, j'étais vraiment intéressée dans son champ d'expertise sur la création monétaire, puis que le père de Justin Trudeau aurait donné le pouvoir de création monétaire aux banques privées à partir de 1974, etc. Ça, c'est un champ d'expertise qui m'intéressait beaucoup, mais honnêtement, le titre de la conférence, je pense que dans mon bureau, je devrais... Peut-être que j'ai un liar encore qui... Mais de mémoire comme ça, non, j'ai pas le titre en mémoire. Désolé.
Ce sont ces événements-là qui vous ont appelé, dans le fond, à vous impliquer plus profondément dans les organisations de Stéphane Blais, comme le comité constitutionnel de citoyens au pouvoir puis le mouvement Intégrité Québec?
Oui, parce que Stéphane Blais, dès le départ, c'était... Il me semblait un être très charismatique, qui avait envie de s'investir dans la communauté, essayer de réduire les injustices. Ça, c'est un être, tu sais, puis il est brillant, là, on s'entend, là, il est très intelligent. Donc, oui, quand il m'a demandé de m'impliquer, oui, pourquoi pas. Écoute, j'ai passé ma vie à aider les jeunes, moi. Donc, c'est clair que j'avais pas de problème à m'impliquer pour... pour essayer d'améliorer le sort de notre société, de la communauté, etc. Mais plus j'avançais avec lui et plus je découvrais que ça allait pas. T'sais.
Mais à la base, ces deux espèces d'entités-là, le mouvement Intégrité Québec et le comité constitutionnel, c'était quoi leur raison d'être? Est-ce qu'elles sont liées? Est-ce que les deux sont liés au parti Citoyens au pouvoir?
Ben, écoute, selon mon analyse, tout est relié, là. Stéphane a le don de créer toutes sortes d'affaires, mais puis de tout utiliser ce qu'il crée pour se bonifier. C'est comme ça que je le vois. Au même titre que la fondation qu'il a créée, puis qui la fondation existe dans un but de faire de l'argent et ne se gêne pas pour faire valoir le parti soit au pouvoir dont il est chef. Donc, c'est ça.
Et tu vois encore impliqué dans le parti ou avec Stéphane Blais quand il a créé sa fondation?
Non, pas du tout. Moi, à partir du moment que j'ai vu qu'il déconnait solide là au début de la pandémie, en fait, Dominique Prud'homme m'avait téléphoné pour me dire qu'il avait donné sa démission. Et moi, j'avais dit à Dominique, OK, je donne ta démission, c'est clair que je quitte. Parce que j'avais déjà pensé à quitter, là. Mais puis là, j'ai dit à Dominique, j'ai dit, il y en a trop qui donnent leur démission en même temps. Fait que pour l'épargner, pour pas qu'il capote, tu sais, je suis très altruiste, hein. Fait que je dis, pour pas trop le faire capoter puis faire de peine, tout ça, je vais attendre une semaine ou deux pour lui donner ma démission. Puis quand je voyais ses publications où est-ce que là, ça dératait solide dans toutes sortes de théories loufoques, là, j'ai fait comme non, moi, je peux pas me permettre de garder mon nom associé à ça puis de risquer ma réputation. Donc, je lui ai écrit en privé puis je lui ai demandé, je lui ai dit, je lui écoute, je donne ma démission. Il m'a répondu, sa démission est acceptée. Et là, je lui ai dit, écoute, je te donne 24 heures pour retirer mon nom du site de Citoyens au pouvoir, mon nom puis mon image. Et là, j'ai eu un outil d'un autre de ses membres, qui est Stéphane Lévesque, je crois, ou de son directeur, ou peu importe. Il m'a dit, écoute, ça risque d'être plus long, on a des problèmes techniques, tout ça, mais j'ai fait comme non. Vous avez aucune excuse, je vous donne 24 heures, je veux vraiment que mon nom et que mon image disparaissent de votre site d'attente. Et Sylvie Bernier, qui était aussi adjointe administrative de Stéphane Blais, elle avait donné sa démission bien avant moi et son image faisait toujours partie du site Citoyens au pouvoir. Alors que quand moi, j'ai été très stricte et menaçante, en leur donnant 24 heures, ça n'a pas été long. Moi, mon nom, mon image a été enlevée. Sylvie Brillant, ça a été un peu plus long. Donc, j'ai communiqué avec elle, je lui ai dit, écoute, Sylvie, sois menaçante. Je veux dire, écris-leur, puis donne-leur 24 heures ou 12 heures, peu importe. Ils vont te niaiser parce que il n'y avait plus personne. Dans le fond, ils nous niaisaient parce que je pense qu'ils attendaient de rassembler d'autres gens pour remplacer nos visages, pour faire croire aux gens qui avait une équipe extraordinaire à se comprendre. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai vu. Donc, bref, c'est ça.
J'ai deux questions, Mme Robichaud, mais vous allez pouvoir y répondre aux deux, en fait. La première, c'est qu'on fait souvent référence à Intégrité Québec, évidemment à Citoyens au pouvoir aussi. Est-ce que, dans quelle mesure êtes-vous, parce que là, ce que je comprends, c'est que vous avez été impliqué, le début de votre implication correspond en fait à ce qu'on appelait Intégrité Québec et non pas nécessairement à Citoyens au pouvoir. Fait que ma question est la suivante, deux volets. Un, quelle est la période durant laquelle vous avez été impliqué au sein d'Intégrité d'Intégrité Québec qui est devenu, si on veut, d'une certaine façon, Citoyens au pouvoir, de un. Et de deux, êtes-vous capable de nous expliquer la différence? C'était quoi ça, Intégrité Québec?
Je ne sais même pas, je pourrais pas vous expliquer. Moi, après la conférence, puis après avoir discuté avec Stéphane Blais, puis qui m'a demandé de m'impliquer dans le mouvement Intégrité Québec, écoute, j'ai jamais vraiment trop compris où est-ce qu'on s'en allait. Il était censé me revenir avec avec des objectifs précis pis tout ça, mais j'en ai jamais eu.
Puis est-ce que c'est vrai de dire que c'est un peu Intégrité Québec est un peu l'embryon qui a mené vers Citoyens au pouvoir? Est-ce que c'est un peu ça? C'est un mouvement citoyen qui s'est transformé en parti politique qui était un qui émanait en fait là, du parti de Rambo Gauthier avant? Ou?
Peut-être, je sais pas, peut-être un amalgame de tout. En réfléchissant là, puis en prenant un recul de tout ça, je pense que Stéphane qui dénonce les carriéristes politiques en est un lui-même en ce sens que il s'est lancé en politique municipale et ensuite étant donné que ça n'a pas fonctionné, il a parti un mouvement citoyen, mouvement Intégrité du Québec, et ensuite c'est intégré au Parti Citoyen au pouvoir qui dans à l'époque était le chef était Yvon Simard.
Ouais, exact.
Et aura trouvé une défaillance pour le sortir et prendre le contrôle du parti. À l'époque, quand Stéphane m'a expliqué qu'Yvon Simard, bon, il y avait un dossier, il y avait un casier judiciaire, puis que, en tout cas, on va éviter toutes les calories qui me dit contre lui, mais je le croyais à l'époque. Écoute, je pense que c'est un être qui est complètement manipulateur, hypocrite. Oui, c'est vrai que on doit remettre un peu plus de pouvoir au peuple, mais son message à lui de remettre le pouvoir au peuple,
il ne l'applique pas lui-même.
Il l'exerce même pas au sein même de ses fonctions, puis du parti politique, puis de sa fondation, puis de peu importe ce qu'il va mettre au monde.
Hein. Okay. Dans le fond, son modèle de... Vas-y, Martin.
Excuse-moi. Je veux juste valider le timeline ici, là. C'est que au moment la fameuse conférence qui n'a pas eu lieu et qui s'est tenue, à laquelle j'avais contribué pour qu'elle ait...
Ouais.
Bon. À quel moment c'était ça?
C'était, oh mon Dieu, c'était en 2013, 2014, je
ne
sais pas.
OK, fait que c'est pas tellement récent, c'est pas exactement récent, là. C'est même pas dans les dernières années, là.
Ben, ça fait une couple d'années, là.
OK. Puis, fait que là, c'est à partir de ce moment-là que vous vous impliquez au sein de d'Intégrité Québec et qu'ensuite, là, bon, là, tout se poursuit, Citoyens au pouvoir, puis
oui,
tout ça.
Oui.
OK, je comprends.
Exactement.
Vous avez participé à la campagne électorale, notamment, je pense, vous avez donné un coup de main à Daniel Pilon dans sa candidature, ramasser des signatures, je crois.
Oui, pour Daniel Pilon et Dominique
Prudhomme,
les deux.
OK. Puis,
j'ai bien solide avec Daniel Pilon parce que je l'écoutais parler dans ses vidéos là, puis là en message privé je lui disais écoute, tu peux pas dire ça là, on est en campagne électorale, c'est pas sérieux ce que tu dis là, ça a pas de sens. Et lui, ben là on avait des prises de bec parce que là il me disait t'es qui toi pour me dire quoi dire puis quoi faire puis tatati puis tatata, puis j'ai fait comme excuse-moi là, mais parce que tu te rends compte que tu es un être complètement narcissique, là, tu es à côté de la plaque, là. Je veux dire, on travaille en équipe, puis toi, tu prends des décisions, tu fais des vidéos live, des conneries qui peuvent miner le parti. Écoute, ça n'avait pas de sens. Moi, je t'ai découragée.
Est-ce qu'on vous a déjà approché pour vous présenter?
Oui, absolument. Puis, étant donné que j'attendais... Moi, j'ai des douleurs chroniques à l'épaule, souvent une fracture ouverte de la clavicule. Je vais attendre une chirurgie. Donc, j'avais pas l'énergie de me présenter.
Mais si vous n'aviez plus, l'auriez-vous fait?
Si j'avais pu, je l'aurais fait à l'époque. Mais, tu sais, compte tenu de toute l'histoire que... À l'époque, j'y croyais au parti, vraiment. Parce que oui, c'est vrai qu'on doit écouter plus le peuple, la voix du peuple, la majorité des voix, etc. Je crois qu'il y a des bonnes choses dans le Parti citoyen au pouvoir, mais maintenant, avec tout ce que je sais, ben, en fait, c'est les dirigeants du parti, dans le fond, qui n'ont pas d'affaires, qui n'ont pas d'affaires là. Hein. Parce que le parti, puis leur voix, en fait, ça a tout plein de sens. C'est les dirigeants qui ont pas d'affaires là, je pense.
Dans le fond, vous êtes séduite par le côté démocratie directe de la plateforme de citoyens au pouvoir, mais vous avez plus ou moins confiance que ça se réaliserait ou que le parti est vraiment fondé là-dessus?
En fait, c'est ceux qui sont à la tête du parti, même Yvon Simard n'avait pas d'affaires là, puis Satine non plus. Tu sais, il y avait plein de conflits d'intérêts. Tu sais, sauf que l'idée derrière le parti de remettre plus de pouvoir à la voix majoritaire du peuple était génial, mais malheureusement, depuis la naissance de ce parti-là, maintenant avec le recul que je fais, avec l'analyse que je fais, je trouve que tous ceux qui ont été à la tête de ce parti-là, ben c'est des gens qui sont contradictoires avec le message.
Et qu'est-ce qui fait que Stéphane Blais choisisse de réunir des gens qui seraient justement contradictoires ou qui n'auraient pas la même vision politique que lui?
Je comprends pas votre question.
Vous dites que les têtes dirigeantes sont des gens contradictoires, qui pensent pas de la même façon. Qu'est-ce qui les réunit ensemble au sein de Citoyens au pouvoir?
En fait, je pense que c'est un jeune parti, puis les gens qui tentent d'obtenir la tête de ce parti-là, c'est des gens qui ont une soif de pouvoir, qui ont une soif de popularité, qui ont une soif de comment je pourrais dire, de la soif de tout gérer, de tout décider, puis cette soif-là de pouvoir, s'entourer de gens qui vont dire oui monsieur, oui, madame. Oui, 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 je crois en toi. Oui, t'es le bon Dieu. Oui, t'es... Écoute, à partir du moment où même Stéphane Blais, quand il a commencé à dire God bless you, même à moi en message privé, frère, soeur, puis j'ai fait comme Stéphane, tu peux pas faire ça. Je veux dire, moi, je suis pour la laïcité. Puis là, tu vas comme... tu vas t'attirer... Tu vas... Il y a des gens qui embarqueront pas là-dedans, qui sont laïcs, puis qui veulent rien savoir de la religion. Puis là, toi, tu publies des publications, God bless you, merci mon frère, merci ma soeur. Écoute, j'ai passé plus d'heures à m'obstiner avec lui que j'ai... Ça n'a pas de sens.
J'allais vous poser, Mme Robichaud, la question de votre mémoire là, des événements, ce qui avait été la goutte qui avait fait déborder le vase. Est-ce que c'est un peu ce que vous venez de nous dire?
Oui, mais en fait, il y a eu bien avant. Il y a eu une goutte qui m'a fâchée. C'est à partir du moment que Stéphane Blais ne consulte pas personne, et qui fait une publication par la page de Soyons au pouvoir, à l'effet qu'il va il accepte de travailler avec Lino Zambito. Moi, j'avais pas été informée de ça. Puis là, je fais comme en privé, en message privé, je fais comme Stéphane, comment tu peux faire ça? Lino Zambito, là, c'est un criminel. Il a été reconnu comme tel. Je veux dire, il a pas le choix de reconnaître sa culpabilité, puis il aurait continué à frauder tant si longtemps qu'il ne se serait pas fait prendre. Je veux dire, pour moi, c'est un criminel. Et là, t'en fais une vedette, puis pour moi, ça avait juste pas de sens. Hein. On est un nouveau parti politique. Je veux dire, comment tu peux t'appuyer avec un être comme ça. Et puis moi je le vois là, nos amitos là, c'est lui aussi soif des projecteurs tout ça. Puis, mais pour moi c'est un criminel. Puis il aurait continué tant si longtemps qu'il n'aurait pas été pris la main dans le sac. Hein?
Dans le fond, si je résume votre propos, c'est que vous êtes senti un peu comme dans un mariage forcé en étant associé à des gens avec qui vous ne vouliez pas être associé, mais vous l'étiez par la force des choses parce qu'ils étaient associés au parti.
En plein ça. Fait que là, j'ai eu une première coupure avec lui, puis ensuite, on a recommuniqué, puis écoute, la même rengaine a recommencé. Stéphane a le don de s'entourer de gens qui détectent, là, qui sont facilement manipulables. Hein. Puis moi, à un moment donné, j'ai fait comme non, là, c'est fait.
Madame Robichaud, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté l'entrevue.
Ça me fait plaisir.
Sophie Robichaud est ancienne présidente du Mouvement Intégrité Québec et du Comité constitutionnel de citoyens au pouvoir. C'est le Crachoir, épisode 130. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. Le Crachoir, épisode 130, drainer la swamp. Martin, j'ai à la fois quelque chose à te demander et une petite surprise pour toi et pour les auditeurs.
Bon, ben, commence. Je veux me garder la surprise pour après. C'est quoi que tu as à me demander?
Ben, je t'ai fait préparer un extrait sonore que je pense que c'est Tommy Godette qui a isolé d'un conspi qui essaye de parler sans trop de succès. Ça a fait le tour pas mal sur Facebook. Fais jouer ça pour replacer les gens dans le contexte.
OK.
Oui, ben ça, c'est un conspi notoire qui a fait une vidéo dans laquelle il s'exprime avec toute sa liberté. Et ben, il y a eu de la difficulté un peu à prononcer ou à embarquer sur sa phrase. Puis ça fait « yé, 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 yon, yé », comme ça peut arriver un peu à tout le monde, sauf que... Le fait de l'isoler puis de le faire jouer en loop, ça rend ça très drôle, ça rend ça même musical. J'ai vu d'ailleurs dans les commentaires du monde qui disait « Hey, ça prendrait un petit beat là-dessus, une petite musique, quelque chose là-dessus. » Ce à quoi a répondu notre ami Super Dave « Hold my beer ». Et Dave s'est amusé avec ce « yé, 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 yon, yé ». Et a produit quelque chose que j'ai tellement aimé que j'ai décidé que ça va être le thème du Deep Steak à partir de dorénavant.
Wow! Et puis là, je tiens à préciser qu'il n'y a pas de kayfabe ici, là, je ne l'ai jamais entendu.
Non, Martin ne l'a jamais entendu. Et quand tu montes le Deep Steak, tu mets le thème du crachoir au début. Ouais. Eh bien, à l'avenir, tu vas mettre le thème qui suit. Je vais te demander de fermer ton micro pour pas que tes rires n'interfèrent avec la musique. Je vais faire de même. Et ensemble, nous allons inaugurer, nous allons étreiner ce nouveau thème du Deep Steak, qui est une gracieuseté à la fois de Tommy Godette, sans le savoir, et surtout de Super Dave, qui a fait un travail incroyable là-dessus. Donc, écoutez, savourez votre nouveau thème du Deep Steak. On ferme les micros. Ça donne ça!
Aïe, 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 aïe! Wow! Sérieux, man!
Moi-même, je m'étais dit, je pourrais faire un petit quelque chose avec ça, mais jamais, jamais j'aurais pu faire de quoi d'aussi bon que ça. Si je t'ai soufflé, c'est parce que Martin le sait, j'ai dansé tout le long.
Ah, puis le pire, là, c'est que c'est tellement représentatif. Frank, je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi de Super Dave. Super Dave, c'est le genre de gars qui t'envoie un fichier MP3. Ouais, gossant après une patente, là, t'écouteras ça. Tu sais, c'est la chapelle Sixtine, là.
Oh, ouais, c'est sa 9e symphonie, puis je dis, ouais, j'ai fait de quoi, là, écoute ça, là. Ça tente de faire quelque chose avec ça. Ben, Dave, ta toune, ça va être le thème du Deep Steak.
Ah, ben, puis and then some en salle, parce qu'écoute, là, good luck à tous ceux qui vont vouloir mixer sur cette affaire-là.
Oubliez from ça. Now on. Oubliez ça, vous n'arriverez pas, bon, pense ben, pas.
Merci, Super Dave. Écoute, je me remets tranquillement, là, parce que ceux qui savent, qui me connaissent, ils savent que quand je ris beaucoup, c'est comme qu'un événement apocalyptique, je m'étouffe, puis tout, je me fais des torticolis.
Tu ris, regurgites, puis tu te blesses tellement tu ris, là.
Ouais, là, je viens de me faire vraiment deep staker, comme on dit dans notre jargon. Alors, Super Dave, merci infiniment, mon chat.
Et avant d'aller à la toune de la semaine, qui est aussi une surprise, fais-nous une petite poutine, j'ai faim.
Bien sûr, absolument. Écoutez, si vous êtes en train de nous écouter, puisque nous sommes disponibles exclusivement sur radioh2o.ca les dimanches soirs à 20h, bien merci d'être avec nous. Et bien sûr, traînez-nous partout. Assurez-vous de ne pas en manquer aucun, parce que nous sommes disponibles sur toutes les bonnes plateformes de podcast, c'est-à-dire Apple Podcasts, Google Podcasts, tout bon podcatcher Android et le monstrueux Spotify. Vous nous écoutez où vous voulez, quand vous voulez, à l'endroit où vous voulez. Qu'il y a de l'Internet, qu'il n'y en ait pas. Très simple. Et merci à ceux qui le font déjà également, parce que, écoute, Frank, on va se le dire, le nombre de nos abonnés ne cesse de grandir. Je parle ici seulement du podcast, là. Merci beaucoup. On est beaucoup plus visible qu'avant aussi, parce qu'on rejoint plus de gens et voilà, là, c'est un effet d'entraînement. Fait que merci infiniment. Sinon, ben je continue un peu ma petite poutine de façon très rapide. Si vous voulez faire partie du Deep Steak, ben, en fait, tout le monde peut faire partie du Deep Tech, mais si vous voulez amener votre expérience un peu plus loin et que vous voulez aller plus profondément, sans jeu de mots douteux.
Plus profondément dans le steak.
Ouais, c'est ça. Ben écoutez, vous vous rendez sur patreon.com/crachoir et là, ben il va vous être expliqué tous les avantages que vous pouvez obtenir pour la modique somme de 5$ ou 10$ US par mois, spécifions-le. La différence avec la contribution à 10$, ben, c'est tout simplement que vous obtiendrez un T-shirt à l'effigie de votre choix du Deep Steakverse, c'est-à-dire un chandail ménage du dimanche ou Deep Steak ou le crachoir. Et précisons que même si vous faites le choix d'obtenir un chandail ménage du dimanche, nous allons remettre ce qu'auraient été les profits, puisque nous vous l'offrons, à InfoSec. C'est d'ailleurs le cas pour toute la marchandise à l'effigie de ménage du dimanche. Et je précise, la marchandise à l'effigie de ménage du dimanche. Deep Steak, le crachoir, faut que Frank mange et moi aussi. Autre chose, puis je vous expliquerai pas toute la... Je vais juste vous dire une affaire. Patreon.com/crachoir, vous vous rendez là, vous allez avoir tous les détails des avantages que vous obtenez.
Ouais.
Mais l'affaire la plus importante, il y en a deux en fait. Un, c'est rétroactif, donc vous obtenez tout le contenu de la plateforme en adhérant, peu importe quand.
Ça commence à être volumineux ce contenu-là.
Ça commence à avoir du stock pas mal. Et deux, vous pouvez quitter... À tout moment, là. C'est pas un contrat de 2 ans comme un cellulaire qu'on signe avec son sang, là, en shakant, puis tout, là. À un moment donné, pour des raisons X, Y, Z, vous avez besoin d'une pause, un break, whatever, vous sautez un mois, vous revenez après. Puis la dernière chose, écoutez, là, on est le 16, 18, pardon. Ben, on vous collecte pas, la plateforme collectera pas votre 5$ avant le premier du mois suivant. Fait que si vous voulez savoir c'est quoi, venez-vous-en, c'est tout. Vous perdrez rien, puis vous allez avoir accès à tout.
Vous pouvez partir à la fin du mois, puis si vous aimez ça, vous pouvez rester puis payer votre petit 5$, qui, je pense que c'est quand même raisonnable pour la quantité de contenu. Ben, la qualité, c'est pas à moi de la juger, mais il y a du stock.
Ouais. Ben, j'ai fait un calcul, Frank, là, ben, regarde, oui. Avec la quantité de stock qu'on a dans le Deep Steak depuis que ça a commencé, en fait, depuis qu'on offre les épisodes Deep Steak, parce que ça fait partie des avantages en audio et en vidéo. Ben, j'ai calculé le nombre d'heures de travail que ça
nécessite.
Et je l'ai divisé par ce que ça nous rapporte à toi et moi depuis le mois de mai, donc depuis le premier Deep Steak. Ça fait 2$ de l'heure, puis il faut qu'on se le split. Fait que...
Et 1$ de l'heure, moi, je me sens un peu comme quelqu'un qui exploite les gens. Là, comme... Colin, hein?
Mais en tout cas, au-delà de ces justifications-là, écoutez bien, là, vous comprenez que c'est basé sur le volume. On a maintenant passé le cap des 170 membres de la plateforme. On les remercie tous d'ailleurs au passage. Et notre motivation de continuer ne sera pas flétrie quand toute cette hostie de calice de pandémie-là sera terminée. Pourquoi? Parce qu'on était là avant, puis on va être là après. Et quoi, des conspirationnistes pensaient qu'il n'y en aura plus? Ben non, il va y avoir de la 5G, la vente de nos dossiers.
Il y avait des conspirationnistes avant la pandémie, il va y en avoir après. Puis d'ailleurs, il y a une auditrice qui m'a écrit personnellement pour me dire qu'elle avait écouté, je crois, c'était l'épisode 29 du crachoir. Là.
Ah, tu vois,
c'est,
voilà.
C'est, je pense que c'est même avant que toi, tu te joignes au crachoir.
Si je te le confirme.
Bon, c'est super vieux, ça fait à peu près 4 ans de ça, l'épisode 29. Et cette auditrice-là me soulignait, me rappelait, parce que moi je l'avais oublié, me rappelait que une partie de l'épisode porte sur José Rivard. puis je m'en rappelle, j'ai même conservé isolé une phrase qu'elle avait dite, c'est-à-dire... Maudite gang de sataniques! Ça, c'était 4 ans avant la pandémie. Elle était déjà contre les sataniques. Puis, à l'épisode 29, on la dénonçait déjà. Fait qu'à l'épisode 327, on va le faire encore. Il va rester des conspies. Puis, ça sera pas. C'est sûr que là, pendant la pandémie, on parle presque exclusivement, mais je veux dire, on parle de l'actualité, puis on debunk. Fait qu'on a comme pas tellement le choix de couvrir ça. Mais après la pandémie, on va continuer de faire ce que le crachoir a toujours fait, c'est-à-dire débunker, informer, divertir. Puis dès qu'on se pille, il va y en avoir en masse pour garnir nos frigidaires à steak.
Juste pour finir, la poutine, Frank, c'est parce que tu m'as offert l'opportunité en or. Écoute, j'invite tout le monde, en fait, à être des nôtres les mercredis soirs à 19h pour ce qui sera, dans le cas de la prochaine, le troisième Mercronspi. Oui, on appelle ça Mercronspi parce que c'est lettre, c'est dur à dire.
ça roule dans la gueule, la Mercronspi.
Ouais, c'est ça. Puis pourquoi ça, je trouve ça important d'en parler là? C'est parce que tu viens de parler de José Rivard. Et écoute, On a deux épisodes de fait, OK? J'explique comment ça fonctionne. Le mercredi à 19h, il va y avoir plein de publications qui vont vous donner tous les liens. Vous vous rendez sur twitch.tv/douteuxtv1, OK? Prenez pas ça en note, là, vous allez avoir tous les liens partout où c'est pertinent. Ça fait deux épisodes qu'on fait. Puis moi, je construis des teasers pour expliquer aux gens c'est quoi les Mercronspies. Et dans les deux cas, je peux pas ne pas les faire avec José Rivard. Parce que c'est dans le fond, les Mercronspies, c'est moi d'un côté, Tommy Godette de l'autre. On regarde des vidéos souvent qui datent de la semaine précédente, un peu une espèce de résumé. Mm-hmm. Et on essaye de dire, on mettra pas de José Rivard cette semaine, parce qu'il y en a eu. On n'est pas capable. C'est juste trop bon. Et c'est juste trop drôle. Fait que, écoute, du rire gurgitage, il y en a à chaque show. ça dure toute la soirée. Vous embarquez quand ça vous tente, vous débarquez quand ça vous tente. Important, il n'y a pas de rediffusion de ça. Les seules rediffusions de ça sont disponibles pour les gens qui sont membres des plateformes Patreon de douteux.org et ou du crachoir, patreon.com/crachoir. Donc, ça ne veut pas dire qu'on veut vous charger pour l'écouter. Non, soyez là les mercredis à 19h.
C'est un rendez-vous qu'on appelle.
Et voilà. Puis, écoute, c'est tellement bon qu'on reçoit des menaces, qu'on est recherché. Écoute, si vous voulez savoir pourquoi. Puis, je vous invite également, dernière chose, Frank, rendez-vous sur la page YouTube de podcast.com. Donc, allez sur YouTube, faites une recherche podcast. L'épisode 1, il est disponible. C'est le seul qui l'est en rediffusion et ça ne coûte rien, pas en tout. Allez voir ça, ça va vous donner une très, très, très bonne idée de ce que sont les Mercronspies. Puis sinon, ben, écoutez, là, apprendre peut-être à petite dose. Nous autres, on le fait ça dure 3-4 heures. Il faut que j'aille prendre des breaks des fois, boire de l'eau, écoute, n'importe quoi.
Ce que je trouve drôle, moi, c'est que le baromètre de nos succès, ou ben le baromètre pour savoir si ce qu'on fait est bien, si on a bien couvert le conspirationniste, ça se mesure en nombre de menaces. Quand ce soit des menaces, puis du hate mail, des courriels haineux, puis des messages haineux, tu sais que t'as fait une bonne job.
Ah oui, hey, puis écoute, on a même eu droit à une campagne de salissage en règle, Frank, on n'a pas parlé, on s'en est même pas reparlé depuis, mais notre
Martin
ami,
et Tommy X.
Ouais, notre ami Mario Richer, écoute, qui a partagé nos faces, oui. Écoute, merci pour cette belle pub, écoute, on commence à te considérer pour donner notre agent publicitaire.
Tu sens pas intimidé un peu? Mais qu'est-ce qu'ils s'imaginent, eux autres, quand ils nous écrivent des affaires de même ou quand ils font des choses comme ça? Qui sont les premiers?
Ah, c'est ça. Fait que nous autres, ben, tu sais, quand on nous fait un bon coup de pub, ben, on rend l'appareil. Hein, on a été bien élevé. Fait qu'on a fait une belle vidéo. Vous irez voir ça, soit sur la chaîne podcast YouTube ou sur Ménage du Dimanche. Merci beaucoup, Mario. Écoute, tant de sollicitude. C'est très gentil.
Sinon, la poutine, l'as-tu faite, là?
Oh oui, c'est pas mal fini, là, je te dirais. Là.
Je suis dans l'une, c'est parce que je suis en train de préparer un extrait pour mettre en scène la toune de la semaine. Je vous en ai déjà parlé, je me demande même si j'en ai pas fait jouer un extrait déjà. On va en savourer ou en subir quelques secondes quand même. C'est la version de Annie Dufresne, conspi notoire, qui, en voyant sa carrière cinématographique battre de l'aile, s'est dit « je vais devenir chanteuse, ça a l'air facile ». Puis effectivement, c'est facile, chanter mal comme elle le fait. Elle a fait une version de We're Not Gonna Take It de Twisted Sister. Elle a appelé ça très original. On va pas se laisser faire. Et ben, ils ont fait à peu près la toune pas même pareil, mais en moins bon. Ça donne ça. Okay, fait que c'est très mauvais. Déjà que la toune, c'est pas une de mes tounes préférées, mais alors là, vraiment pas. Mais il y a une stakeuse, je sais pas si je peux la nommer, je sais pas si elle veut rester anonyme. Je vais protéger son identité, puis si elle veut s'en octroyer le crédit, elle le fera sur Facebook. Fait que parce que je sais pas si les gens veulent être nommés. À ce temps, je les nomme plus au cas, parce que c'est pas tout le monde qui veut dealer avec le fameux hate mail dont on parlait tantôt. Et je comprends ça. Elle avait besoin d'une version un peu métal. Elle dit, comment je pourrais faire pour métalliser ça, pour le faire sonner plus métal, plus dark un peu? J'ai dit, laisse-moi ça entre les mains. Fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé Super Dave. On s'est assis, puis on a refait cette toune-là qu'on n'aime pas vraiment, mais on a décidé de la faire métal au complet. Fait que j'ai refait la guitare, j'ai refait la basse et Dave a refait le drum, a mixé tout ça. Puis ça donne une version métal. Dans le fond, c'est une cover d'une cover. On a conservé la voix irritante d'Annie Dufresne. Je me suis pas donné la peine de l'auto-tuner. Je laisse ces faussages où ils sont. Mais on a rendu la toune plus métal, fait qu'on va se quitter là-dessus. La version métal de la version poche de la d'Annie Dufresne de la toune We're Not Gonna Take It. Tu parlais d'Inception, là, on est rendu à trois niveaux de cover. Mais
moi, je pense, Frank, que c'est quatre parce que la première version que tu as fait écouter là, pendant quelques secondes, je pensais que j'écoutais vraiment Josie and the Pussycats.
Là, c'est Josie and the Conspies. Ben, c'est ça, tiens, on va appeler ça comme ça. On écoute, on va pas se laisser faire de Josie and the Conspies. Et c'est la fin de ce crachoir épisode 130. À la semaine prochaine.
Yeah.